autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Thibaut Baduel à la réalisation dans le meilleur des mondes quantiques pour décrypter cette nouvelle révolution en marche, cette rupture technologique annoncée et beaucoup fantasmée en compagnie de notre invité, le physicien Julien Bobroff, professeur à l'Université Paris-Saclay et formidable passeur de science. Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. C'est le titre de son dernier ouvrage paru chez Flammarion et dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, à l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et même au mystère de la superposition et de l'intrication quantique. Le fameux chat de Schrödinger, vous savez, à la fois mort et vivant, ou encore le lien indéfectible entre deux particules, quelle que soit la distance spatio-temporelle qui les sépare. Autant de phénomènes hallucinants, dignes du meilleur de la science-fiction, à l'œuvre exclusivement dans l'infiniment petit, mais qui en font fantasmer plus d'un et qui pourraient bientôt bouleverser nos vies et surtout nos technologies. En attendant le Graal, l'ordinateur quantique, où en sommes-nous exactement sur le plan quantique? Et pourquoi se méfier des escrocs et autres charlatans de qubits? Autour de la question, le 21e siècle sera-t-il quantique? Première réponse du professeur Alain Aspect, lauréat cette année du prix Nobel pour ses découvertes en intrication quantique, qui nous faisait partager ici même, il y a un peu plus d'un an, lors du lancement en France du plan quantique.
Si vous avez 50 ou 100 bits quantiques intriqués, eh bien, accrochez-vous bien, le nombre de possibilités est de l'ordre du nombre de molécules qu'il y a dans l'univers.
Ah, c'est hallucinant.
Et donc, ça veut dire qu'il y a, des possibilités de manipulation de l'information absolument gigantesques, et l'espoir de l'ordinateur quantique repose sur cette propriété. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne faut pas se mentir, comme disaient les jeunes, on est loin d'être capable d'exploiter toutes ces possibilités. Mais on en exploite un petit peu. Et donc, c'est là qu'on est dans cette fameuse course à l'ordinateur quantique, dont personne ne sait si l'ordinateur quantique idéal auquel on rêve sera un jour produit, mais dont nous avons la certitude aujourd'hui que des versions dégradées, appelées ordinateurs NISQ pour Noisy Intermediate Scale Quantum Computer, on sait que ce genre d'ordinateurs un peu dégradés, eux, vont nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec les ordinateurs classiques.
Bonjour Julien Bobroff.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour nous faire partager les vraies attentes et les fausses promesses de cette nouvelle révolution quantique autour de la question le 21e siècle sera-t-il quantique comme votre aîné que l'on vient d'entendre, le professeur Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Le physicien et formidable passeur de sciences quantiques que vous êtes, Julien, préfère le point d'interrogation à l'affirmation. Alors où en sommes-nous? Que peut et que pourra la quantique, cette physique si mystérieuse et contre-intuitive, qui ne concerne, on le rappelle, que l'infiniment petit? Alors, bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. C'est le titre de votre dernier essai, Julien Bobroff. Pourquoi la nouvelle révolution quantique? En fait, c'est une... Elle a déjà eu lieu, la révolution quantique en physique, en tout cas.
Oui, il y a déjà eu une première révolution quantique qui a eu lieu, en fait, dans les années 50-60. C'est le moment où les physiciens avaient suffisamment bien compris comment les petites particules, par exemple des électrons, fonctionnent dans la matière, et ont commencé à inventer des technologies. On est dans les années 50-60 et ils inventent coup sur coup.
1950-1960.
Et ils inventent coup sur coup le transistor, donc ce composant qui va faire toute l'électronique moderne. Mm-hmm. Ils inventent les lasers et ils inventent les LED. Donc ils inventent la plupart des technologies qui nous entourent maintenant, et c'est il y a plus de 60-70 ans.
Donc on est déjà dans des technologies quantiques.
En fait, la quantique est déjà partout autour de nous, sous forme de technologie. Évidemment, on ne se rend pas compte que la quantique se cache derrière là, mais c'est même des physiciens de la quantique qui les ont inventées.
Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de deuxième révolution quantique?
Alors cette deuxième révolution quantique, elle commence, elle frétille, on va dire, dans les années 80. Ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, et Alain Aspect en est un des protagonistes, les physiciens commencent à arriver à manipuler les atomes, ou alors les photons, les grains de lumière, un par un. Avant, on avait des soupes d'atomes, mais on avait toujours des millions ou des milliards d'atomes à la fois.
Parce qu'il faut dire qu'on est dans le plus que l'infiniment
petit. On est dans
petit,
le dixième de milliardième de mètre. Donc, à cette échelle-là, normalement, on est incapable de manipuler quoi que ce soit. Et pour une bonne raison, c'est que nos outils sont trop gros, puisque nos outils sont eux-mêmes constitués de plein d'atomes. Mais Dans les années 80-90, on commence à arriver à les piéger avec des champs électriques, avec des rayons laser, avec de la lumière, avec plein d'astuces. Et soudain, un nouveau monde s'ouvre aux physiciens. Alors pourquoi ? Parce que quand on peut capturer un seul atome, on va pouvoir jouer sur certaines propriétés quantiques sur lesquelles on ne pouvait pas jouer avant. Par exemple, on va pouvoir le mettre, vous l'avez dit, dans deux états à la fois. Ce fameux chat de Schrödinger. Un vrai chat ne sera jamais à la fois mort et vivant. Mm-hmm. Mais un atome, lui, peut être dans deux états à la fois. Et ça, on va être capable de le mesurer, de le contrôler, de le gouverner à partir des années 90. Et on va être également capable, et Alain Aspect en est une des preuves vivantes, de faire de l'intrication, c'est-à-dire cette fois-ci de prendre deux particules, deux atomes ou deux électrons ou deux photons, de les frotter l'un à l'autre en quelque sorte, on dit qu'on les intrique, et ensuite, quand on va les séparer, leur destin va rester relié. Et ces deux propriétés, et ces deux-là seulement,
donc superposition et intrication,
vont soudain permettre de créer, d'inventer plein de nouvelles technologies. Donc vous voyez, c'est un petit peu la même chose qui s'était passé dans les années 1950, où on avait compris les fondements de la physique quantique, puis on s'en est servi pour fabriquer, inventer des outils. Ben là, pareil, on va être capable, avec la science très fondamentale, de manipuler des atomes, et ça va ouvrir soudain des territoires du possible.
Nous voilà donc dans cette deuxième révolution quantique, mais alors comment faire passer ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup, on y reviendra, il y a des charlatans, on met un peu la quantique, j'ai envie de dire, à toutes les sauces. Un autre de vos ouvrages, un précédent, Julien Bobrov, s'intitulait « La quantique autrement ». Comment faire passer la quantique? Je ne sais pas si c'est autrement, mais en tout cas, à la fois, c'est tellement contre-intuitif, tellement difficile à comprendre, un peu comme ces photons ou ces électrons. Moi, parfois, j'ai l'impression que je comprends quand vous êtes en face de moi, puis quand vous êtes parti, je ne sais plus, je ne comprends plus du tout. Comment le faire passer et comment ne pas basculer non plus? On y reviendra dans l'escroquerie absolue ou dans le fait de mettre de la quantique partout, là où on le rappelle, à notre échelle, il n'y en a pas, ce n'est pas possible.
Non, je crois qu'il faut être dans un entre-deux, c'est-à-dire que il faut rester quand même rigoureux et scientifique, et puis comme vous l'avez dit, dire les limites de ce qu'on peut dire et ne pas dire, mais pas tomber non plus dans un côté trop scientifique où on va assommer les gens d'équations et d'un langage mathématique incompréhensible. Et donc il faut accepter à un moment donné de faire des métaphores, d'essayer de dire aux gens ce qu'ils pourraient imaginer si eux-mêmes étaient à l'échelle des atomes, même si on sait évidemment qu'on ne sera pas complètement rigoureux et qu'on se fera probablement gronder par tous les collègues qui vont nous écouter attentivement. Et donc voilà, il faut trouver cette espèce d'entre-deux. Alors moi je ne sais pas toujours le trouver tout seul, mais je travaille beaucoup avec des créatifs, avec des designers, avec des vidéastes, avec des illustrateurs, pour chercher ensemble des solutions.
C'est ça, dans votre laboratoire,
oui, c'est ça, mon équipe, en fait, c'est ça. Ça s'appelle la physique autrement, et on récupère plein de créateurs de tous les domaines, et puis des physiciens, et ensemble, eh ben, on essaye de trouver de nouvelles façons de parler de physique quantique. Parfois, ça passe par la parole, parfois par l'image, parfois par le son.
On y viendra, hein, parce que vous avez aussi de nombreuses vidéos. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de la médiation scientifique du CNRS, notamment pour vos vidéos géniales de quantique confinée, hein, d'abord dans votre cuisine, mais aussi sur TikTok et Instagram. On y viendra. Autour de la question « Le 21e siècle sera-t-il quantique ?» Cette question, en tout cas, elle est au cœur de nombreux enjeux aujourd'hui, géopolitiques, économiques, industriels. En France, le président Macron a lancé le plan quantique en 2021. On vient d'apprendre aujourd'hui même que dans ce cadre de ce plan quantique, il y a une start-up, Sequans, dirigée par Maud Vinet, formidable chercheuse en physique quantique, pour être aux avant-postes du calcul quantique. Donc c'est vraiment, il y a aussi des enjeux là derrière, financiers, économiques, industriels, oui. Énormes. C'est pour ça que tout le monde s'excite là-dessus aussi.
Tout le monde s'excite et ça c'est nouveau pour le coup. C'est-à-dire qu'avant on était quand même dans un champ de recherche très fondamental, quand je parle de ces manipulations d'atomes ou d'électrons. Alain Aspect lui-même, pardon, reconnaissait qu'il ne voyait pas forcément d'application à ces expériences. Et là, actuellement, tout le champ industriel et économique et également stratégique, politique, voire militaire, s'intéresse à la quantique parce qu'on commence à voir émerger ces technologies et on se rend compte qu'elles peuvent avoir des effets importants. Vous avez parlé de l'ordinateur quantique, on pourrait parler de cryptographie, d'internet, d'imagerie par exemple, ou de capteurs. Et donc tout le monde commence à s'y intéresser fortement et on a affaire à des choses auxquelles on n'avait pas affaire avant. Par exemple, vous parlez de Maud Vinet. Maud, moi je l'ai interrogée justement pour le livre et elle raconte très bien qu'on avait des chercheurs qui étaient dans leur labo de physique fondamentale et qui commencent soudain à fabriquer, à faire des choses qui peuvent avoir des applications, donc à créer des start-up, donc à se relier à l'industrie, donc à avoir des financements qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, tout ce monde-là est en train d'évoluer à grande vitesse. Et puis il se passe quelque chose de très amusant, c'est que les physiciens soudain doivent travailler avec des ingénieurs, avec des informaticiens, avec des mathématiciens, avec des électroniciens. Donc on a des chocs de culture très intéressants de toutes ces communautés qui doivent ensemble se frotter les unes aux autres pour créer ces nouvelles technologies.
C'est dans ce sens-là qu'il y a une vraie rupture. Au fond, ce n'est pas une rupture tant que ça scientifique pour le moment, c'est une rupture technologique à venir, c'est ça ?
Oui, ce n'est pas une révolution scientifique en fait. Une révolution scientifique, c'est la naissance de la quantique en 1910-1920. On réinvente notre façon de comprendre le monde. Ça, c'est une révolution scientifique. Là, on a affaire à une révolution technologique, au sens où, grâce à la quantique, on a créé des nouveaux outils, des nouvelles façons de manipuler la matière à l'infiniment petit, qui ouvrent des possibles, qui ne va pas bouleverser, je pense, ce qu'on a compris de la physique quantique, mais qui va bouleverser ce qu'on peut en faire.
Ce qu'on peut en faire, et notamment avec le Graal, le fameux ordinateur quantique. On va y revenir, bien sûr. On a déjà entendu Alain Aspect là-dessus. Hein. Je crois que l'ordinateur quantique idéal, pour le moment, il est hors de question, hors de portée, mais on ne sait jamais. En attendant l'ordinateur quantique, nouvelle question pour vous, Julien Bobrov, soulevée par ma consoeur Mathilde Fontaise, du mensuel Epsilon.
On parle beaucoup de la menace de l'ordinateur quantique qui pourrait craquer tous les protocoles de communication qui servent à sécuriser nos achats sur Internet. Alors bien sûr, on a bien compris qu'il y avait encore du chemin à parcourir pour vraiment réaliser cet ordinateur quantique, mais tout de même, il semble qu'il y ait des progrès tous les jours. Est-ce qu'on doit se préparer à ce risque? Est-ce qu'on doit avoir peur pour nos données? Est-ce que les industriels eux-mêmes se préparent?
Votre réponse.
C'est une excellente question. Alors, il ne faut pas avoir peur, déjà. Donc, juste pour l'expliquer clairement, si l'ordinateur quantique marchait bien un jour, et on a bien compris qu'il ne marche pas encore bien, il pourrait effectivement, parmi les nombreuses tâches qu'il pourrait accomplir, il pourrait en faire une toute bête qui est de décomposer en nombres premiers. Si vous avez 15, il peut vous dire que c'est 5 fois 3. Mais il peut faire ça avec des très gros nombres, et ça, un ordinateur normal ne sait pas le faire. Mm-hmm. Et manque de chance, c'est ce sur quoi reposent de très nombreux codes secrets actuellement.
Donc, il pourrait casser les codes.
Voilà. Hein. Si on avait cet ordinateur-là et qu'il marchait vraiment très bien, il pourrait casser les codes. Alors, je crois qu'il faut se rassurer pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des trucs les plus difficiles qu'il aurait à faire, cet ordinateur quantique, et que ça, on n'y est vraiment pas, et je pense qu'on n'y sera pas avant très longtemps, et peut-être jamais. On a plusieurs dizaines d'années devant nous, à mon avis, avant qu'il arrive à faire cette tâche particulièrement.
D'accord.
Puis l'autre raison, c'est qu'on se prépare. Les agences de sécurité mondiales se sont préparées. On fait une compétition internationale auprès des mathématiciens en leur disant, allez-y, trouvez d'autres codes secrets qui résisteraient, eux, à l'ordinateur quantique. Et ils n'ont pas chômé, ils en ont trouvé plein. Il y a une grande compétition, il y a 3 finalistes. Les Français, notamment, ont participé à ces équipes-là. Et donc, on a des nouvelles façons de faire des codes secrets que même un ordinateur quantique ne pourrait pas casser, et les agences sont en train de les déployer à tous les endroits où il y a des enjeux de sécurité. Donc rassurez-vous, je ne pense pas que l'ordinateur quantique, sa menace numéro un ou son effet numéro un, ça sera de casser les codes secrets.
Et là, en revanche, vous le dites, on s'y est préparé. Alors est-ce qu'on met quoi ? La charrue avant les bœufs, ou est-ce que c'est bien de se préparer? Parce que l'ordinateur quantique, on a un peu l'impression que c'est l'arlésienne parfois. Hein.
On anticipe au cas où. Là, c'est vraiment du au cas où. C'est-à-dire que si effectivement, soudain, l'ordinateur quantique marchait et cassait les codes secrets, ça serait vraiment fâcheux. Donc on anticipe, à mon avis, un risque qu'il ne faut pas surévaluer, qui reste très modeste, mais qui permet au passage de faire des mathématiques passionnantes, de développer des tas de modèles qui sont hyper intéressants scientifiquement. Et donc je pense que c'est pas peine perdue. Et ça fait travailler les mathématiciens à des nouvelles façons de chiffrer.
Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette révolution quantique? Puisque l'ordinateur quantique, on a bien compris, tout à l'heure Alain Aspect parlait de l'ordinateur dégradé. Bon, c'est pas du tout pour tout de suite, mais vous travaillez. Sur quoi travaillent aujourd'hui les physiciens quantiques, mais en interdisciplinarité avec les autres,
hein? Il y a 4 piliers, on va dire. Le premier pilier, celui qui marche déjà hyper bien en fait, alors il va sembler moins glamour que l'ordinateur quantique, mais il est crucial, c'est les capteurs. Un appareil qui permet de mesurer. En fait, avec ces technologies quantiques, on a des outils de mesure plus performants que tout ce qu'on avait avant. Par exemple, on peut mesurer la gravité avec une sensibilité incroyable. Et des Français s'en sont servis récemment pour mettre un de ces appareils en haut d'un volcan et essayer d'anticiper les éruptions volcaniques, parce qu'on va voir la gravité en direct changer quand du magma nous passe sous les pieds, par exemple. Donc ces capteurs-là, eux, servent déjà et dans plein de champs de l'industrie. Le deuxième pilier, c'est les communications. Avec cette idée de chiffrement, alors pas celle dont vous parliez, une idée qu'avec l'intrication, on pourrait faire de la cryptographie et donc on pourrait communiquer de façon plus sécurisée grâce à l'Internet quantique.
D'accord. Le troisième. Et qui là, l'Internet quantique.
Alors là, ça commence à marcher et derrière ça se cachent d'autres technologies que moi je trouve passionnantes, qui sont les technologies liées à l'imagerie. En manipulant des grains de lumière de façon astucieuse, on peut voir derrière les murs, on peut voir dans le noir, on peut voir en 3 dimensions. On peut fabriquer des radars pour les militaires. Et donc il y a tout un champ, par exemple, d'imagerie quantique qui se développe beaucoup et qui me semble passionnant. Puis le troisième pilier, c'est l'ordinateur quantique, on y est. Donc lui, son job, c'est faire des calculs bien mieux que n'importe quel ordinateur normal. Alors soyons clairs, il ne remplacera pas nos ordinateurs. Il ne va marcher que pour certains calculs très spécifiques, mais ceux-là peuvent être très importants. Par exemple, mieux calculer des trajets optimums, mieux calculer certaines équations qui permettraient de fabriquer des médicaments ou qui permettraient de calculer des réactions chimiques.
Mais au fond, ça concerne les laboratoires, la science, l'industrie, ce qui serait énorme, cet ordinateur quantique.
Ça ne concernerait pas le particulier
c'est
directement.
Ça, hein,
ça concernerait des pans entiers de l'industrie. D'accord. Par exemple, ça permettrait de bien mieux simuler les fluides, donc pour la météo, donc pour le climat, donc pour l'aérodynamique du transport. Mais on reste sur des champs industriels. Le quatrième pilier, on en parle moins et à mon avis, c'est le plus prometteur, c'est les simulateurs quantiques. L'idée, c'est que votre ordinateur, au lieu d'essayer de le faire calculer, et ça, on sait que ça ne marche pas bien pour l'instant parce qu'il fait des erreurs. La raison, c'est qu'il fait plein d'erreurs et qu'on ne les contrôle pas. Eh bien, vous allez juste le laisser fonctionner tout seul et suivre les lois de la quantique. On appelle ça un simulateur quantique. Donc, au début, vous lui mettez une situation que vous avez envie de comprendre. Puis, vous le laissez faire tout seul. Lui, il suit les lois de la quantique parce qu'il est quantique. Et il vous donne une réponse à la fin. Et ça, ça pourrait permettre, par exemple, de décrypter certaines réactions chimiques, de les améliorer. Et là, les enjeux sont énormes. Je vous donne un exemple. Oui. Avec ces simulateurs, on pourrait peut-être essayer de trouver comment mieux capter le CO2. Comment mieux créer des engrais azotés sans devoir chauffer à 500 degrés, donc économiser tout de suite plusieurs pourcents sur la facture énergétique mondiale. On pourrait simuler des nouveaux matériaux, par exemple pour faire des meilleures batteries, pour faire des meilleures cellules photovoltaïques. Et donc là, il y a un enjeu gigantesque qui est en gros d'aider les chimistes, les médecins et les physiciens à fabriquer de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, de nouvelles réactions chimiques.
À travers de l'imagination sans borne de la quantique.
Enfin, en quelque sorte, ça serait une sorte de supercalculatrice. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment fabriquer un médicament, la technique normale, c'est d'aller voir le chimiste, de lui dire « essaye de construire telle molécule, puis au bout de 2 ans, on va regarder si ça marche ou pas ». Là, on pourrait les simuler pour choisir la bonne et choisir comment la fabriquer à l'avance.
Donc ça serait peut-être le meilleur des mondes quantiques. À voir, à suivre, bienvenue en tout cas dans cette nouvelle révolution quantique, pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage. Julien Bobrov, paru aux éditions Flammarion et dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question « Le 21e siècle sera-t-il quantique ?» Piste de réponse musicale en forme de pastiche dénichée sur Acapella Science. Un site qui, un peu à votre manière, Julien Bobrov, utilise tous les moyens possibles pour nous faire passer la physique quantique entre les deux oreilles. La preuve avec Bohemian Gravity, arrangé et interprété par Tim Blaze et Acapella Science, sur cette musique signée, signée Queen sur RFI.
Is string theory right? Is it just fantasy, caught in the landscape, out of touch with reality? Compactify on S5 or T-star S3.
Space is a pure void, why should it be stringy?
Because it's quantum not classical, non-renormalizable.
Anyway you quantize, you encounter infinity. You see.
La science sur RFI, autour de la question jusqu'où nous entraînera la physique quantique et jusqu'où nous entraînerez-vous dans cette nouvelle révolution quantique que vous partagez avec nous sur les ondes de RFI, Julien Bobrov. Je rappelle que vous êtes physicien, professeur à l'université de Saclay et formidable passeur de sciences physiques et de physique quantique autrement à travers vos ouvrages. Le dernier vient de paraître chez Flammarion. Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique, mais aussi sur le net. Alors après nous avoir fait beaucoup sourire avec vos vidéos confinées où vous nous faisiez passer la quantique dans votre cuisine autour d'une casserole de spaghettis, vous sévissez désormais sur TikTok grâce à des mini-vidéos. C'est pas tout à fait des quantiques vidéo, mais presque. En tout cas, on peut presque tout comprendre à la quantique et même l'expérimenter, comme par exemple, tenez, avec le fameux chat de Schrödinger.
Alors, dans l'expérience imaginée par Schrödinger, il vous faut un chat, il vous faut du poison, il vous faut un atome et il vous faut une boîte. Alors, l'atome, il peut être dans deux états à la fois. On va dire par exemple qu'il est soit rouge, soit noir. Et vous avez fabriqué un outil qui relie cet atome au poison. L'outil, il mesure l'atome. S'il voit que l'atome est rouge, il fait rien. Mais s'il voit que l'atome est noir, alors il ouvre la fiole et il y a du poison dans toute la pièce et on meurt. Et alors, la question que pose Schrödinger, c'est qu'est-ce qui se passe si on met un chat près de ce dispositif et qu'on enferme tout ça dans une boîte. Alors c'est facile, si l'atome est rouge, bah, le chat reste en vie, il se passe rien. Mais si l'atome est noir, la petite machine mesure ça, dit à la fiole de poison, ouvre-toi, le poison se répand dans ma boîte et le chat est mort. Mais Schrödinger dit, attention, en physique quantique, on peut avoir un atome qui est à la fois dans un état rouge et dans un état noir. Et donc la question c'est, à l'intérieur là, mon chat, il est en vie ou il est mort? Et alors souvent la réponse que les gens font c'est, ben il est les deux à la fois, il peut être à la fois mort et vivant. Et en fait les gens se trompent, le chat est soit en vie, soit mort. Et oui, votre atome au début, il est bien dans deux états à la fois. Mais au moment où vous le branchez sur l'outil de mesure, et à ce moment précisément, l'atome voit les millions, voire les milliards d'atomes que compose l'outil de mesure. Et donc il va essayer de se connecter à ces milliards d'atomes à la fois, et ça, ça va l'empêcher d'être dans deux états. Il va être obligé, à ce moment précisément, de choisir soit noir, soit rouge. Donc le chat Schrödinger, lui, ne peut pas être à la fois vivant et mort. Par contre, l'atome du début, lui, il peut bien être dans deux états à la fois. Voilà, bonne journée!
Et voilà comment on peut enfin comprendre et même expérimenter la physique quantique grâce à vous, Julien Bobroff. Alors pourquoi l'éminent professeur, physicien quantique que vous êtes, s'est mis à faire des vidéos sur TikTok?
Ah là là, on a longtemps hésité dans l'équipe et puis il y a eu ce chiffre qui nous a convaincus. 75% des 15-25 ans en France ont un compte actif sur TikTok. Donc si à un moment donné, on veut vulgariser la quantique auprès du jeune public, on peut toujours discuter, aller dans les lycées, faire des conférences. Si on veut toucher du monde, il faut aller là où ils sont. Donc on s'est dit qu'il allait falloir y aller, mais dans les codes de TikTok et d'Instagram aussi, parce qu'on fait ça aussi sur Instagram et sur Facebook également. Donc voilà, on a appris, on a fait nos gammes, et puis on a essayé de se dire, est-ce qu'on peut faire passer de la science en une minute? Et donc, on s'est lancé, on a testé et on a trouvé tout un public. Et un public que j'ai trouvé remarquable. Moi, on m'avait promis des horreurs. Et en fait, c'est un public bienveillant qui se pose plein de questions, qui dans les questions va débattre scientifiquement, va se poser des questions, se répondre, invectiver, etc., etc. Mais je trouve d'une grande qualité, d'une grande curiosité. Et puis un gros public, je veux dire, sur un chat Schrödinger, on peut avoir quelques centaines de milliers de personnes qui regardent la vidéo. Tout le truc, c'est évidemment de raccourcir notre pensée à des formats très courts, c'est sans la pervertir pour autant.
C'est ça, sans rien dire de faux. Enfin, tout ce que vous dites est absolument juste et ça permet de comprendre, de s'interroger, ce qui est quand même le but du jeu. Alors tout récemment, là, vous vous êtes même commis avec mon confrère et ami Antonio Fischetti dans Charlie Hebdo. Alors c'est une enquête signée Antonio Fischetti. Il s'est saisi du quantique, il vous a interviewé très sérieusement. Alors pour faire passer la quantique dans Charlie Hebdo, Antonio a un moyen assez radical. Il explique la physique quantique, alors comment dire, par les mots du quantique. Ben, je vous les donne comme ça, les bits, les qubits, autrement dit. Antonio Fischetti explique la physique quantique par le cul. L'article est génial, on comprend tout et on rigole bien, franchement. Mais alors pourquoi est-ce que les physiciens ont-ils sorti des mots pareils, Julien Bobroff? Parce que déjà que la quantique, c'est quand même très compliqué. Mais alors en plus, on parle en qubits, on parle en bits, enfin ça embrouille un peu.
Ouais, on n'est pas coupable. Je crois que c'est la faute des matheux et des informaticiens qui ont inventé ça dans les années, je sais pas, 40-50. Hein. Le bit, c'est vraiment ce 0 et ce 1 de l'informatique qu'on retrouve dans tous nos ordinateurs. Le problème, quand en anglais, on dit byte, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en français, évidemment, la prononciation est trompeuse. Et qubit, en fait, Q, c'est pour quantique.
C'est
évidemment,
pour quantique.
C'est quantum byte. Et en français, évidemment, pour Charlie Hebdo, ça leur donne des idées.
Et ça leur donne de très jolies idées. Je vous invite, hein, chers amis auditrices et auditeurs, à jeter un œil là-dessus. C'est hilarant et on y comprend quelque chose. Et dans cet article, et ben comme vous d'ailleurs, Antonio Fischetti nous alerte, Julien Bobroff, ce que vous faites vous également, sur les escrocs du quantique, enfin plutôt les charlatans qui mettent la quantique à toutes les sauces. On entend parler de médecine quantique, de choses très très complexes. Comment est-ce qu'on fait déjà pour ne pas tomber dans ce piège-là? Déjà rappelons que ça se passe dans l'infiniment petit, la quantique, ça touche pas le vivant.
Alors en fait, ça ne le touche pas dans la façon dont l'utilisent les charlatans. Le truc habituel, c'est qu'on va vous prendre un effet de physique quantique. Par exemple, je vous ai parlé de superposition d'états ou de saut quantique. Hein, l'idée qu'on saute brutalement d'un état à un autre état et qui sont des phénomènes totalement réels et observés à petite échelle. Mais on va les transposer à l'échelle du corps humain. Et là, il y a une faute scientifique toute bête. Hein, et d'ailleurs, ça a été montré en laboratoire par un autre de nos prix Nobel qui est Serge Haroche. Quand un objet est trop gros, il ne peut pas rester dans deux états à la fois parce que les atomes entre eux subissent ce qu'on appelle une décohérence. C'est quelque chose qu'on comprend très bien scientifiquement. Mais les charlatans, ce qu'ils vont faire, eux, c'est utiliser cette métaphore pour dire des choses du corps humain. Par exemple, certains vont dire qu'on peut se soigner de façon spontanée grâce à la physique quantique en subissant un saut quantique. Donc ils utilisent le langage de la physique quantique pour l'adapter à quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Et moi, ça ne me gêne pas du tout en soi, tant qu'ils ne font pas semblant que c'est de la science qui permettrait d'expliquer ce qu'ils expliquent. Si c'est juste de la poésie, si c'est juste de l'inspiration, moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai un problème quand on fait dire à la science ce qu'elle n'est pas capable de dire. L'idée qu'un être humain subisse un saut quantique au sens de la quantique, c'est radicalement faux. L'idée qu'un être humain peut être dans deux états à la fois, c'est radicalement faux. Par contre, s'en inspirer pour imaginer des choses dans le champ des croyances et pas dans le champ de la science, ça ne me dérange pas.
C'est ça, si c'est un gris-gris quantique, tout va bien tant qu'on sait que c'est un gris-gris. Mais d'où l'intérêt aussi de comprendre de quoi on parle. Parce que la physique quantique, c'est aussi totalement contre-intuitif. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut s'en emparer, la triturer, j'ai envie de dire, dans tous les sens et lui faire dire ce qu'on veut.
Oui, moi je plaide coupable. Pour ma communauté, peut-être pas moi personnellement, on joue un peu trop ce côté mystérieux. Mmh. On aime bien surjouer des tas de questions très épistémologiques, philosophiques, sur le sens de la réalité, du monde, des univers parallèles, etc. etc. Et en faisant ça, on ne fait pas de faute scientifique, mais je trouve qu'on met l'emphase peut-être sur un côté mystérieux en le surjouant. La physique quantique, on la comprend pour l'essentiel parfaitement depuis 120 ans. On l'expérimente depuis 120 ans, elle est robuste, elle est solide, on l'enseigne depuis une centaine d'années. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on comprend très bien. Et on surjoue peut-être un petit peu son côté mystérieux, et après, évidemment, ça se fait récupérer dans d'autres domaines que la science.
Et puis, c'est peut-être aussi parce qu'on est entouré, vous l'avez dit, d'objets, au fond, qui se servent déjà de technologies quantiques, qu'on ne comprend pas, mais dont on se sert tout le temps, et qui nous permettent quoi de croire qu'il y a de la magie, au fond, un peu partout.
Oui, mais en fait, c'est pas nouveau, cette histoire. Souvenons-nous, au début du XXe siècle, de la découverte des ondes radio. Mmh. Là, en train de faire de la radio.
Absolument.
Les ondes radio, c'est un truc incroyable quand on y pense. Ouais, le fait que quand je parle dans mon téléphone portable, il y a une onde magique qui avance à 300 000 km par seconde, qui traverse les murs et qui va à l'autre bout du monde. Le fait que là, tout le monde puisse nous entendre partout sur tous les continents. C'est incroyable quand on y pense. Et les gens, au début, ont trouvé ça incroyable. Et il y a plein de charlatans qui ont inventé plein de machines pour se soigner avec les ondes radio. Alors qu'en fait, il n'y a rien d'incroyable du point de vue de la science. À nouveau, du point de vue de la physique, il n'y a rien d'incroyable parce que la physique cherche à décrire le monde avec des lois.
C'est ça.
Et à comprendre comment le monde marche, pas pourquoi il marche comme ça. Et donc, ça échappe à notre intuition, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne le comprend pas. Je crois qu'il faut bien distinguer l'idée qu'on comprend quelque chose et l'idée que ça échappe à notre intuition. Et il y a une bonne raison pour laquelle ça échappe à notre intuition, c'est qu'on est trop gros. On est fait de milliards, de milliards, de milliards d'atomes, donc on ne comprend pas bien ce qui se passe à l'échelle d'un atome. Si on était né à l'échelle d'un atome, on comprendrait. Mais regardons l'histoire des ondes radio maintenant. Ça nous semble assez naturel, ça nous semble presque intuitif, l'idée qu'il y ait des ondes qui traversent les murs. Et donc moi, tout le travail que je fais, c'est d'essayer de donner aux gens la même intuition pour la quantique et que ça leur semble finalement assez naturel qu'un électron puisse traverser un mur ou que deux particules intriquées aux deux bouts de l'espace puissent avoir un destin commun.
Il faut reconnaître, quand on lit votre ouvrage ou quand on vous regarde, bon, je suis moins TikTok quand même, mais j'ai pas mal suivi sur Facebook vos vidéos, on comprend un peu mieux, effectivement. Autour de la question, le XXe siècle sera-t-il quantique? Il y a tout de même de vraies questions à se poser maintenant et à vous poser, Julien Bobrov, enfin à vous et tous les physiciens du quantique, notamment sur l'impact énergétique, environnemental de cette future révolution quantique, on l'a compris, qui va être bien plus technologique que scientifique. C'est en tout cas des questions que se posent à juste titre les jeunes chercheurs et chercheuses qui travaillent notamment avec Eleni Diamanti, éminente spécialiste de cryptographie quantique, qui est tout récemment notre invitée. Je propose de l'écouter.
Comment nous, les scientifiques qui travaillons dans les domaines des technologies quantiques, pouvons profiter du fait que nous sommes en train de développer tout au début, dès le départ, toute une catégorie, un ensemble de nouvelles technologies pour qu'on réponde aux défis de notre monde actuel. Et je parle ici des ressources énergétiques, des besoins d'accessibilité de ces nouvelles technologies à tous et à toutes partout dans le monde, de la démocratisation de cette utilisation de ces nouvelles technologies.
Et c'est une question que vous vous posez, vous, en faisant vos recherches, Eleni Diamanti.
Je me pose cette question et je vois aussi que ça intéresse énormément les jeunes chercheurs dans nos laboratoires. C'est vrai que ça revient toujours dans les discussions. Je vois un vrai besoin des jeunes doctorants de ne pas travailler que pour des grandes entreprises qui exploitent nos résultats scientifiques parfois de façon pas très claire. Voilà, même s'ils contribuent eux aussi à ça, mais qu'ils ont quand même des questionnements que moi je n'avais pas eu là quand j'ai commencé ma thèse. C'est un fait. Mais maintenant, les jeunes docteurs, c'est très important pour aller voir où vont les recherches, comment ils seront utilisés dans un monde où on a de moins en moins de ressources et qui devient de plus en plus inégalitaire.
De vraies questions soulevées par les étudiants et étudiantes d'Eleni Diamanti, enfin les jeunes doctorants, que vous vous posez vous aussi, que les physiciens du quantique se posent, Julien Bobrov.
Bien sûr, et c'est des questions bien légitimes. La question clé, on va la poser clairement, c'est est-ce que cette révolution quantique et ces technologies quantiques vont nous permettre de nous sortir de cette crise climatique? Et la réponse est non. Non, clairement non. Et alors non pour deux raisons. Il y en a une, c'est que d'abord, elles ne proposent pas des solutions universelles. Elles vont proposer certaines solutions qui peuvent aider. Je vous ai parlé par exemple des engrais, je vous ai parlé de la captation de CO2, mais ces solutions-là ne vont pas faire le bon dont on a besoin pour résoudre les problèmes. L'autre raison que les gens oublient trop souvent, c'est que ça prend du temps de faire de la science. Moi, je me suis amusé à raconter dans mon livre les histoires, les parcours humains. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, entre la première manipulation d'un atome et le premier embryon de l'ordinateur quantique, il y a 40 ans. Entre la première idée d'Alain Aspect sur l'intrication et des cryptographies opérationnelles, il y a 35 ans. Donc l'échelle de temps, elle est trop longue par rapport à la crise qui arrive. Donc là, on pourrait se dire, bah, arrêtons, ça ne sert plus à rien de travailler dans la quantique. Alors je pense que ça sert quand même pour deux raisons. La première, c'est qu'on va quand même faire des découvertes au passage, et on en fait déjà, qui vont aider, à la marge, mais qui vont aider. Donc ça vaut le coup de continuer. Et puis plus généralement, je pense qu'on pourrait se poser la question, hein, ouvrons un petit peu le débat, de la justification de la recherche fondamentale dans un temps de crise. Est-ce qu'il ne faut pas juste tous aller maintenant vers des enjeux du genre améliorer des cellules photovoltaïques, ou enfin voilà, aller vers des enjeux plus pratiques. Je pense qu'il faut garder cette branche de recherche fondamentale, alors pas pour une raison corporatiste, mais parce que d'abord, elle permet de faire des découvertes inattendues.
Mais c'est ça, on ne sait pas ce qu'on va trouver.
Et donc, il ne faut pas préjuger à l'avance. Et il y a une autre raison qu'on oublie peut-être parfois, c'est qu'en faisant de la science, on apprend aussi à construire une vérité ensemble, à débattre ensemble, à se mettre d'accord sur des valeurs, sur des quantités, sur des faits, alors qu'on est dans des compétitions féroces avec des égos démesurés. Et je crois que le monde a peut-être à apprendre de la science, non pas par ses technologies, je ne pense pas qu'on va résoudre les choses avec les technologies actuelles, mais peut-être sur notre façon de travailler ensemble. Peut-être que ça pourrait permettre de s'inspirer de la façon dont les scientifiques travaillent ensemble, ben pour débattre ensemble de quelles solutions on va adopter à l'échelle mondiale pour résoudre la crise qui nous occupe.
Et les physiciens sont bien placés pour ça. On pense aux physiciens du CERN qui viennent de toutes nationalités et qui travaillent ensemble, iraniens, palestiniens, israéliens, enfin je pense à eux comme ça parce qu'en ce moment ils sont sous le feu de l'actualité. Mais, et qui ont inventé Internet et pas l'Internet que l'on connaît aujourd'hui, mais vraiment l'Internet pour partager, pour comprendre et pour échanger entre grands esprits. Mais est-ce qu'aussi dans toutes ces technologies quantiques, est-ce qu'on prend en compte aussi l'impact sur notamment les minerais rares, sur les ressources limitées, enfin, est-ce que ça, désormais, c'est pris en compte dans ces recherches fondamentales, qui sont fondamentales, ça je suis bien d'accord.
Alors là, je vais donner un avis qui n'engage que moi. Oui. Je ne partage pas forcément la vie globale qui est de dire c'est très important, c'est un enjeu clé, il faut tenir compte du coût énergétique.
Oui, oui.
Alors, la raison à ça pour moi, c'est que à la fin, ces ordinateurs quantiques, soyons clairs, c'est des laboratoires de physique. Ça n'a pas une tête d'ordinateur, c'est une tête de labo de physique.
Oui,
et donc, si
c'est
on arrive à le fabriquer, on va en fabriquer 15, 20, 30, 50 dans le monde et ça va suffire parce qu'après, on va se les partager sur le cloud. Et donc, on n'est pas du tout dans une production de masse comme par exemple le smartphone. Donc, travailler sur la quantité de terres rares dans un smartphone, ça c'est crucial pour toute l'humanité. Travailler sur la quantité de terres rares pour une expérience qu'on va dupliquer peut-être en 50 exemplaires, je crois moins en cette nécessité. Donc je ne pense pas que l'enjeu numéro un dans ces technologies quantiques, ça soit le coût énergétique.
Quel est votre, j'ai envie de revenir là-dessus quand même, parce que dans le quantique, il y a pas mal de bizarreries. Quelle est votre bizarrerie quantique préférée, cher Julien Bobrov? C'est compliqué, parce que, mais oui, il y en a plein. Faites-nous en partager quelques, mais oui, parce que c'est quand même extra.
Alors, il y en a une, ça c'est mon petit territoire personnel. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur les supraconducteurs. Et il se trouve que ces supraconducteurs sont un des composants de base d'un des ordinateurs quantiques qui marche le mieux, celui de Google et d'IBM en l'occurrence. Et ces supraconducteurs, vous imaginez un tout petit circuit électrique dans lequel on fait circuler du courant, qu'on refroidit beaucoup. Et soudain, le courant se met à avancer de façon absolument parfaite. C'est pour ça qu'on appelle ça un supraconducteur. La bizarrerie, c'est si vous fabriquez un petit anneau avec ça, vous voyez, une petite boucle un peu comme une bague, et que vous faites circuler du supraconducteur dedans, un petit courant supraconducteur, puis ensuite vous enlevez. Votre pile électrique, le courant circule jusqu'à la fin des temps. C'est un mouvement perpétuel quantique. Et c'est ce type de mouvement-là qui permet à l'ordinateur quantique de marcher dans la version Google ou IBM. Donc ça, moi, ça me fascine complètement.
Il circule en rond jusqu'à,
jusqu'à la fin des temps. Tant qu'on le laisse tranquille,
il
circule. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable. Et puis l'autre effet, reprenons quand même l'expérience d'Alain Aspect.
Oui.
Elle est incroyable. Et je vais vous raconter sa version moderne. Des Chinois ont récemment envoyé dans l'espace un satellite, Minkus. Et ce satellite, c'est en gros le petit laboratoire d'Alain Aspect de l'époque, mais qu'ils ont envoyé dans l'espace. Et donc vous imaginez ce satellite qui est là, qui flotte au-dessus de la Chine et qui va envoyer deux grains de lumière aux deux bouts de la Chine. Donc deux photons. Ces deux photons partent du satellite, vont aux deux bouts de la Chine, arrivent dans deux laboratoires qui sont à peu près à 1000 km l'un de l'autre. Les physiciens mesurent ces photons dans les laboratoires et se rendent compte qu'ils ont l'air d'être corrélés à distance de façon instantanée.
Ils sont intriqués.
Et que cette intrication puisse survivre à 1000 km de distance. Et même ce que veut dire cette expérience, c'est-à-dire être capable de détecter un photon venant d'un satellite alors qu'on a toute la lumière environnante, toute l'atmosphère, etc., etc. Pour moi, c'est un prodige technologique et scientifique.
Mais vous arrivez à le comprendre, ça, parce que cette intrication, on y revient, c'est vrai qu'Alain Aspect a eu le prix Nobel pour ça, mais le fait que deux particules minuscules puissent être intriquées à des bouts de l'espace géographique du temps différent et restent connectées. Vous arrivez à comprendre ça?
Alors, on revient à cette question de la compréhension.
Ouais.
Moi, dans ma tête, il y a des équations qui s'écrivent, il y a des inégalités de Bell, il y a des bilans statistiques.
Ça,
et donc, dans ma tête de physicien, je la comprends.
D'accord.
Parce que je l'ai apprise, je l'ai éprouvée, etc. Grâce à mes équations et à mon langage mathématique. Et je m'en suis fait une intuition de physicien. L'expliquer au grand public, ça, c'est un vrai défi. Je pense même que c'est le défi ultime de la vulgarisation quantique, expliquer cette intrication sans faire des erreurs de compréhension. C'est pas que les particules communiquent à distance, c'est pas qu'elles s'envoient des informations. C'est que vraiment, on parle de non-localité, c'est comme s'il y avait une sorte d'information qui se délayait dans l'espace et pouvait aller au debout de l'univers. Ça, c'est troublant, ça échappe à notre intuition, et je suis pas sûr encore d'être arrivé à bien la vulgariser, même si j'essaye de façon répétée.
Vous dites que c'est comme si des brins d'information circulaient dans l'espace.
Nous, on parle de fonction d'onde quantique, donc cette espèce d'onde qui décrit l'objet, et bien là, quand les deux photons s'éloignent, en fait, ils sont quand même reliés par une fonction d'onde quantique, et ils ne veulent pas être complètement séparés, donc ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre, et chacun ne choisit pas son destin, il est dans deux états à la fois, hein, comme le petit chat de tout à l'heure, et c'est seulement quand on le mesure qu'il choisit comment il est, et que là, on a l'impression que l'autre, à 1000 km de là, est corrélé à distance et choisit la façon dont il est en lien avec le premier.
Et tout ça, c'est lié, on y revient, à l'observateur, sans observateur
C'est lié au fait qu'on mesure. Quand on mesure,
c'est lié
en gros,
au fait qu'on mesure.
On doit utiliser
fond,
un gros
c'est
outil. C'est ce que je racontais dans mon TikTok. Alors, vous n'avez pas vu le TikTok, mais il y avait un petit chat, il y avait une boîte et tout sur ma table. Mais le point sur lequel j'insistais, c'est qu'à un moment donné, il va falloir mettre un outil de mesure. Et cet outil de mesure, il va immédiatement faire arrêter l'atome qui va choisir une des deux situations.
Et donc, au fond, plus que l'observateur, c'est l'outil de mesure.
Oui, je ne crois pas que notre conscience ait un rôle clé dans cette histoire-là, ou le fait qu'on soit nous des humains, parce qu'on peut faire la mesure et l'analyser plus tard. Je crois que c'est le fait, à un moment donné, de mettre un gros machin dans la chaîne qui fait qu'on veut ramener une information du monde de l'infiniment petit jusqu'à notre monde à nous, et que ça nous oblige à utiliser un gros outil quelque part, et que c'est lui qui va obliger l'atome à choisir.
Donc c'est le gros outil, c'est pas notre conscience. Dommage ou tant mieux, je ne sais pas. Julien Bobrov, autour de la question, le 21e siècle sera-t-il quantique et jusqu'où? Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique, ça c'est le titre de votre ouvrage, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. À l'écoute tout de suite de Gilberto Augil sur RFI. Le morceau en brésilien s'intitule Quanta Quantum.
Latim plural de quanto, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quanto um granulado. Sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Parte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. Arte de criar o saber, arte descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos.
ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz um momento e no mesmo momento desfaz.
Gilberto Gil, le doux chant du Quanta sur RFI. Petit cadeau pour vous. Julien Bobroff, je rappelle que vous êtes physicien, professeur à l'Université Paris-Saclay, où vous dirigez une équipe de recherche originale, la physique autrement, la quantique autrement. Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. C'est le titre de votre dernier ouvrage, paru chez Flammarion, autour duquel nous nous interrogeons avec tout de suite une nouvelle question pour vous, soulevée par mon confrère Guillaume Langin. Oui, c'est ça, Guillaume Langin du magazine Ciel et Espace.
On entend parler de communication quantique spatiale. La Chine, notamment, a mené des expériences dans ce sens. Est-ce que l'Europe a des grands projets de communication quantique spatiale ?
Votre réponse, Julien Bobroff, puisque vous avez expliqué précisément ce qu'avait fait la Chine avec des photons dans l'espace.
Ce que je vous ai raconté avec ce satellite et auquel fait référence la personne en question, c'est pas de la communication en fait, c'est du partage de codes secrets. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas l'état de ces grains de lumière. Vous vous souvenez, ils sont dans deux états à la fois et puis ils font un peu n'importe quoi quand ils arrivent, mais l'un est relié à l'autre. Donc les deux personnes au debout de la Chine dont j'ai parlé tout à l'heure, à la fin, peuvent se construire un code secret qu'elles partagent sans avoir besoin de s'appeler.
Et par après, satellite interposé, par ces photos.
Et après, elles vont utiliser ce code secret pour communiquer de façon, pour le coup, très traditionnelle. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu du quantique dans l'espace, pour moi, bien au-delà de cette question de cryptographie qui n'est pas, moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est quelque chose d'un peu détourné, mais que je trouve absolument incroyable, c'est l'idée d'aller faire de la physique dans l'espace. À quoi ça peut servir d'aller faire de la physique, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale ? Eh bien, il se trouve que dans l'espace, on n'a plus les problèmes de gravité. On est en microgravité. Mm-hmm. Et ça, en quantique, ça permet de faire des mesures bien plus précises. Il se trouve qu'il y a des expériences de physique quantique dans la Station Spatiale Internationale en ce moment.
Thomas Pesquet, on a fait
alors,
lui aussi,
pas lui
pas
directement,
encore,
mais je connais une physicienne qui en a fait, qui a été guidée à distance par les physiciens sur Terre pour lui dire comment mesurer, parce que c'est des expériences très, très, très raffinées.
Pointu, bien sûr.
Et donc, l'idée, c'est d'aller faire de la physique dans l'espace, parce qu'on va pouvoir accéder, notamment quand on fabrique ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein, à des phénomènes auxquels on accède difficilement sur Terre. Et puis, il faut se souvenir qu'en fait, la quantique, elle est déjà dans l'espace et elle nous sert au quotidien à travers le GPS. Quand vous avez le GPS sur votre téléphone, qu'est-ce qu'il fait le GPS ? Il repère quelques satellites dans l'espace qui sont près de lui et il regarde à quelle distance sont ces satellites pour savoir où il est. Donc quand vous voulez vous repérer avec un GPS sur votre téléphone portable, vous êtes juste en train d'interroger les satellites à distance. Et ce que font les satellites, c'est qu'ils vous envoient un petit signal et vous allez mesurer le temps que le signal met à vous arriver. Donc il faut une horloge précise. Plus l'horloge est précise, mieux vous vous repérez sur Terre. Et ces horloges, pour qu'elles soient vraiment précises, on va utiliser la physique quantique, ça s'appelle des horloges atomiques. Il y en a deux à bord de chacun de ces satellites. Et on essaye de les améliorer, parce qu'en les améliorant, et ben on améliorera la précision du GPS. Et donc, une technologie aussi simple que se repérer sur Terre repose sur de la physique quantique dans l'espace.
Jusqu'où nous entraînera la physique quantique, sur Terre comme dans l'espace au XXIe siècle ? Sur quoi travaillez-vous, Julien Bobroff, quand vous n'êtes pas en train de préparer des vidéos pour nous expliquer la physique quantique autrement ? Quels sont, vous avez dit, la cryptographie, ce n'est pas tellement votre propos. Sur quoi travaillez-vous ?
Alors moi, j'ai arrêté les recherches en physique quantique pure. J'en ai fait pendant 20 ans et je consacre toutes mes recherches maintenant à la fois sur la question de la vulgarisation et de l'enseignement. Je pense que c'est deux questions reliées et deux questions clés. Vous parliez un peu des jeunes et de ce que cherchent les jeunes maintenant quand ils viennent faire de la science. On a ce vrai souci avec nos jeunes quand ils viennent faire de la physique. Ils n'ont plus les mêmes motivations qu'avant, évidemment, que moi j'avais il y a 30 ans déjà. Et donc la question, c'est comment réinventer la façon d'enseigner les sciences. Et nous, on y travaille beaucoup. Par exemple, on utilise la fiction ou par exemple, on utilise des smartphones, tiens, on parlait des smartphones, pour aller mesurer de façon frugale. Et ça concerne aussi beaucoup de pays émergents qui n'ont pas forcément les moyens de développer des TP incroyables. On a des collaborations, par exemple, avec l'Afrique, dans plusieurs pays, pour essayer de les aider à développer des nouvelles façons frugales de mesurer. On peut faire de la très très bonne science avec relativement peu d'outils et nous-mêmes on essaye de le faire, de le développer et puis ça permet de développer aussi la créativité, un bon sens physique et aller mesurer le monde qui nous entoure. Et donc un des enjeux pour moi là, c'est réinventer notre façon de montrer aux gens qu'on peut être scientifique dans le monde et qu'on peut s'emparer du monde avec un regard de physicien en l'occurrence.
Un regard de physicien que vous a appris justement la physique et la physique quantique en particulier. Vous l'avez dit, vous avez mené vraiment de nombreuses recherches en physique quantique. Qu'est-ce que vous en retenez de cette approche en tant que physicien
de ce monde de l'infiniment petit, des atomes, des photons.
J'en retiens un émerveillement constant. Je suis émerveillé du monde qui nous entoure. Chaque fois que je regarde ma main et que j'imagine les atomes dans ma main et les nuages électroniques et les principes de Pauli et les effets tunnels, je suis émerveillé.
Vous voyez
émerveillé.
Tout ça, enfin vous...
Je l'imagine.
D'accord.
Et plus je le vulgarise et plus ça m'émerveille. Je me lasse pas un instant. Et même de phénomènes assez simples. Par exemple, moi, je fais beaucoup de vulgarisation autour de la supraconductivité. Et à un moment donné, on va faire flotter un petit aimant au-dessus d'une galette. C'est une expérience que je fais depuis 25 ans et que j'ai dû faire des centaines de fois. À chaque fois que je la refais, elle m'émerveille. Parce qu'elle symbolise la quantique, une onde quantique géante, etc. Donc l'émerveillement sur le monde qui nous entoure. Et puis aussi, moi, ce que je retiens de toutes ces recherches, peut-être au-delà de la science, c'est quand même cette façon de travailler. Cette idée, moi, que je trouve assez belle dans un monde où quand même tout va très vite. On parlait de TikTok tout à l'heure, qui est presque la caricature du flash, du rapide, du zap. Cette idée, à un moment donné, de devoir aller dans un laboratoire et bosser pendant 3, 4, 5, 10 ans sur une expérience pour finalement sortir un résultat qui va un petit peu faire avancer les frontières de nos connaissances. Je trouve qu'il y a une noblesse là-dedans, il y a une beauté qui échappe peut-être au monde actuel, mais qui, moi, m'émeut au plus haut point.
Oui, vous jouez sur le temps, en fait, puisque vous allez dans votre médiation scientifique jusqu'à, en une minute, arriver à nous faire passer énormément de choses. Et en même temps, vous rappelez le temps long de la recherche scientifique. Alors, sur quoi travaillez-vous avec vos collègues de la physique autrement? Quel est votre prochain sujet de vidéo, tiens donc, pour TikTok, Facebook?
Oh, on a plein de sujets de vidéo. On en a un où on va essayer d'expliquer aux gens, justement, qu'est-ce qui se passe quand un physicien arrive dans une forêt et qui commence à regarder la forêt, il regarde un gland qui tombe, il regarde une feuille, il regarde une toile d'araignée, et comment il raisonne, comment il réfléchit, comment soudain il a plein d'idées d'expériences complètement folles dont on n'aurait pas l'habitude, pour montrer aux gens ce qui se passe quand on porte des lunettes de physicien. Ou alors, un autre exemple, on est en train de monter une exposition sur la physique quantique qui va s'appeler GR quantique. Ça va être comme un GR, un chemin de grande randonnée.
D'accord.
Et où on va se balader dans des paysages quantiques. Ça va être escarpé, ça va être dur. De temps en temps, il va y avoir des tables d'orientation, ça va s'ouvrir. Et on va emmener les gens dans ce monde de la quantique, mais de façon un peu décalée, en disant, bon, vous allez faire une randonnée, vous allez sûrement en baver à certains moments, mais vous allez voir à la fin, vous aurez un paysage merveilleux.
Moi, je vous suis hein, sur votre GR quantique. Merci beaucoup, Julien Bobrov, d'être venu en direct dans notre studio sur RFI. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique, paru chez Flammarion. Et donc, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, nous avons un exemplaire à vous offrir. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. À bientôt, cher Julien Bobrov. Vous revenez quand vous voulez nous entraîner dans votre GR quantique. Et on est d'accord à chaque fois, parce qu'on se croit un petit peu plus intelligent quand on vous quitte, alors on en profite.
Merci Caroline.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est presque fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Autour de la question, comment décoloniser la science? Regard croisé de chercheurs et chercheuses du continent recueillis par notre reporter Charlie Dupiot au Bénin pendant le deuxième colloque international sur la science ouverte. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.